Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Étude sur le livre de l'Apocalypse. Cinquième partie. Ouverture des six sceaux.
Nous sommes déjà parvenus à la cinquième étude dans notre livre de l'Apocalypse. Il y a combien de chapitres dans le livre de l'Apocalypse? Comment? Ah non. 22. Et nous sommes à la cinquième étape. Alors voilà. Peut-être que d'ici là, le Seigneur sera revenu. Hein? Sait-on jamais? Voilà. On l'espère. Hein? Nous l'attendons. Alors, que dire? La Bible, c'est un livre ouvert. On est d'accord? Et puis les fois précédentes, enfin surtout particulièrement la dernière fois, on a parlé d'un livre scellé. Mais qu'il soit ouvert ou qu'il soit scellé, on a besoin de la révélation du Saint-Esprit. Parce que même quand il est ouvert, si véritablement il n'y a pas cette lumière qui vient d'en haut, eh bien ce sera un livre qui restera comme les autres. Littérature, parmi d'autres ouvrages. Mais il y a quelque chose de particulier dans la Bible, il y a quelque chose de particulier dans l'Apocalypse, parce que nous sommes enseignés par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, ce livre scellé, dont nous allons voir l'ouverture maintenant, ce livre scellé, ai-je dit, contient les secrets qui révèlent l'avenir de l'humanité à la fin des temps. Est-ce pour nous? Je crois que nous pouvons répondre par l'affirmative. Il suffit tout simplement de lire ces textes et de voir, d'analyser, de comparer. Et je crois qu'il y a quelque chose de très vrai dans tout cela. Même s'il y a eu des générations et des générations de chrétiens qui ont dit « Eh bien, c'est pour maintenant l'Apocalypse. » Et puis ils sont partis. Mais nous vivons des temps aussi où nous attendons, semblablement bien à eux, l'avènement de Jésus qui va venir et qui va remettre tout en ordre et tout en place. Ce que nous allons maintenant partager ensemble dans ces chapitres qui vont venir, c'est quelque chose de difficile. C'est annonciateur des jugements divins par des moyens, par le moyen de divers fléaux dévastateurs. Et c'est vrai que pour le commun des mortels, le mot « apocalypse » a une connotation de tragédie, de drame, de fin du monde. Alors que, on l'a vu précédemment, ça a un tout autre sens. Alors nous allons ouvrir maintenant les sceaux, les uns après les autres. Il y en a sept. Et nous allons donc voir, étudier. Et à travers le chapitre 6, vous allez ouvrir votre Bible, on va la garder ouverte sur ce chapitre, et puis on va aller de verset en verset avec un commentaire, et bien par pensée. Donc, une nouvelle page de la Révélation s'en trouve. Ce sont les sceaux qui fermaient le livre du chapitre 4 et du chapitre 5. Chapitre 5 nous avait appris que il y avait une grande détresse dans le ciel et sur la terre parce que personne n'était digne de briser les sceaux et d'en faire la lecture. Mais quelqu'un a été trouvé. Ce quelqu'un, nous avons vu son apparition, il a été célébré avec de l'adoration, une adoration extraordinaire et universelle. Alors, nous voyons qu'à travers le verset premier, je rappelle que l'auteur inspiré n'est autre que l'apôtre Jean. Et il dit ceci, verset 1er, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Il interpelle, eh bien, l'apôtre à venir et à voir, et aujourd'hui, dans le livre qu'il nous a laissé, qui s'appelle donc le livre de la Révélation, Jean nous fait part de ce qui vient, de ce qui va se passer, de ce qui attend le monde. L'apôtre est convié, en tant que prophète, à regarder ce qui va arriver dans le ciel et sur la terre. Parce que ça se passe, je dois le rappeler, dans les deux niveaux. Le premier saut. La vision fait apparaître un cheval blanc. Écoutez, verset 2. « Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne, lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Trois éléments sont à remarquer. Le premier, sur cette monture, donc sur ce cheval, un cavalier armé d'un arc. Je voudrais quand même préciser une chose, un arc est une arme de distance. Vous connaissez naturellement le principe, c'est d'y apposer une flèche et d'atteindre un adversaire ou un ennemi à distance. Ce n'est pas du corps à corps, mais ça a sa signification. Donc, un arc. Le deuxième aspect relevé, c'est que celui qui est sur le cheval blanc porte une couronne posée sur sa tête. Et cette couronne met en évidence, évoque la dignité royale. Celui qui est sur ce cheval, c'est Christ. Le troisième aspect, il possède, il a un caractère de vainqueur. Il n'est pas parti pour perdre. Il est parti pour mener un combat, une lutte et revenir victorieux. C'est sa détermination. Je voudrais faire une remarque. Pourquoi l'image des chevaux? Il y en aura quatre. Pourquoi premier, deuxième, troisième, quatrième saut sont introduits par l'image des chevaux? Le cheval est l'emblème de l'impétuosité par rapport à d'autres animaux, ce qui indique que plus rien ne peut désormais arrêter les jugements divins parce que c'est scellé. Voilà. De tout temps, quand on pose des scellés sur quelque chose, une porte, un livre ou autre chose, eh bien c'est que c'est quelque chose de secret naturellement, qui peut être révélé à un moment donné, mais c'est quelque chose d'une grande importance. Le cheval est associé à l'idée de force. Si vous lisez la Bible, vous le retrouverez assez souvent dans ce caractère, de combat et de conquête. Aujourd'hui, nos armées modernes, eh bien, ne sont plus cela, mais pendant des siècles et des siècles, depuis la plus ancienne antiquité, eh bien, c'était le cheval. Les hommes auraient pu peut-être être véhiculés par autre chose, mais le cheval, c'est la fierté, c'est l'impétuosité, et c'est véritablement, eh bien, cette image de conquête. Il est question d'un cheval blanc. La blancheur du premier cheval semble indiquer la sainteté alliée à la justice céleste. Il s'agit donc, en résumé de ce verset, il s'agit donc à l'évidence du Christ vainqueur qui part triompher du mal. Il ne part pas pour faire n'importe quoi, mais le but à atteindre, c'est vaincre, triompher, dépasser, anéantir le mal. Parce qu'il a vaincu, et ça il faut revenir naturellement dans les pages précédentes de notre Bible, du Nouveau Testament en particulier, tout a été scellé, tout a été déterminé lorsque Christ est monté à la croix et qu'il a vaincu le prince de ce monde. Donc ce que nous sommes là en train de méditer, ce n'est que la conséquence logique, c'est la réalisation, je dirais, universelle de ce qui a été fait. Ce fameux jour où les ténèbres sont apparues à Jérusalem et que Christ, eh bien là, pouvait dire « Le prince de ce monde n'a rien de moi, mais je l'ai vaincu. » Et ça, c'est une promesse pour les chrétiens de tous les temps. Nous sommes vainqueurs avec Jésus-Christ. Et il part pour vaincre. Il ne peut pas y avoir d'autre chose. Et l'Église, dans la foi, marche à la suite du grand vainqueur. Nous ne partons pas comme cela en disant « Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que nous allons faire ceci ou cela ?» Nous sommes des vainqueurs, frères et sœurs. Nous sommes des vainqueurs déjà, dès maintenant, par rapport au mal qui existe dans notre monde, dans notre temps, dans nos vies. Nous sommes vainqueurs. Et il faudra le répéter et le répéter encore. Nous partons et nous marchons en vainqueurs, parce qu'il nous précède. Nous ne sommes pas derrière un défaitiste. Nous ne sommes pas derrière quelqu'un qui a perdu la partie. Nous marchons derrière quelqu'un qui est vainqueur totalement, complètement, définitivement, et j'ajouterai éternellement. Voici le deuxième saut. Je reprends le verset 3, par exemple, puisque chaque saut est précédé d'une annonce. C'est quasiment la même. « Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens, viens. » Donc, second seau. Cette fois, c'est un cheval non plus blanc, mais roux, ou rouge, comme vous voulez. Et il sortit un autre cheval rouge, fauve, si vous aimez mieux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Nous sommes en présence de ce deuxième cheval qui est monté par un cavalier disposant du pouvoir d'enlever la paix sur la terre, et entendez par là, dans la compréhension de son contraire, créer, susciter, mener la guerre. Voilà. C'est un mot horrible dans toutes les langues, le mot guerre. Hein. C'est quelque chose. Le mot paix est un mot d'une grande douceur. Le mot guerre est un mot abominable, qui fait frémir les nations, qui fait frémir les hommes. Et la guerre va venir parce que, justement, la paix va être enlevée. Vous savez, c'est difficile de faire la paix. C'est facile de faire la guerre. Nous sommes sur une planète où la guerre est partout, hein, d'une manière ou d'une autre. Et je dirais, pas seulement avec des avions, des canons, des fusils, tout ce que l'on peut imaginer d'instruments de guerre. Mais ça peut se faire d'une autre manière, d'une toute autre manière, mais les résultats sont toujours les mêmes. La ruine, la destruction, la mort. Dans sa main, ce n'est plus un arc, mais c'est une épée. Et je vous dirais que l'épée est une arme de proximité. Autant l'arc était une arme de distance, on se rapproche. Le carnage, parce que c'est quand même deux choses différentes. Surtout quand on aborde le combat, la lutte au corps à corps. Terrible, hein ? C'est terrible. Donc une arme de proximité. Dieu, je voudrais le dire, pour ceux qui pourraient être troublés, je voudrais le dire et le marquer, que nous le comprenons bien, Dieu n'est pas l'auteur de la guerre. Quand bien même les belligérants se précipitent dans leurs églises respectives pour invoquer le même Dieu, souvent, et de dire « Mais Seigneur, voilà !» Alors non, Dieu n'est pas le Dieu de la guerre. Mais, à notre surprise, et nous le comprenons avec une lecture de la parole, on s'aperçoit que Dieu laisse faire les hommes. C'est terrible, hein ? Quelque part, les hommes, avec les sentiments qui sont en eux, se livrent eux-mêmes entre les mains de celui qui est le prince de la mort. Vous comprenez naturellement ce que je veux dire. Donc Dieu laisse les faire les hommes, se faire la guerre, pour qu'ils apprennent, s'ils apprennent, si un jour ils apprennent, s'ils veulent apprendre, à finir par comprendre qu'il faut faire la guerre à la guerre. Ouais. Et jusqu'ici, on a signé des traités de paix, mais on n'a jamais mis un terme aux guerres. Il y a eu des centaines et des centaines, ne serait-ce que déjà dans notre ère que l'on appelle chrétienne, c'est-à-dire les 20 derniers siècles de l'histoire de l'humanité, ce sont des milliers, des centaines de contrats, de traités. Pff. On dit toujours c'est la dernière. Hein. C'est jamais la dernière. Parce que quand ça s'arrête ici, ça repart ailleurs. Et il y a toujours quelqu'un qui a intérêt à ce qu'il y ait la guerre quelque part. Naturellement. C'est sordide, c'est... Mais ça, la guerre, c'est le chef-d'œuvre de Satan. Ouais, excusez-moi, un chef-d'œuvre abominable. Abominable. De Satan qui exploite les passions humaines. Et vous avez vu avec moi, il dit qu'il est venu pour enlever la paix ici-bas Et ça lui est très facile de le faire puisque il s'adresse à des cœurs qui sont foncièrement mauvais, qui par nature n'aiment pas la paix, n'aspirent pas à la paix. Ou quand ils aspirent à la paix, c'est simplement pour leurs intérêts, rien à faire de ce qui se passe ailleurs. Vous savez que Jésus nous dira ces paroles terribles dans Matthieu, et je cite, il parlera dans, finalement, cette vision des temps à venir et peut-être les temps qui sont les nôtres aujourd'hui. Au chapitre 10 de Matthieu et au verset 34, il dira ceci, « Ne croyez pas, on est surpris, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Et pourtant il s'appelle le prince de la paix. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Il faut bien comprendre ce texte, parce qu'il a quelquefois suscité des grandes questions et peut-être des justifications, mais il n'y a pas de justification. Jésus est bien venu apporter la paix, un message de paix, un message d'amour, un message de réconciliation entre les hommes. Mais pourquoi la guerre? Parce que l'Évangile va susciter justement entre ceux qui aiment la paix, ceux qui aiment la vérité, ceux qui aiment la justice, ceux qui aiment le ciel, Dieu. Et puis ceux qui ne l'aiment pas, eh bien la guerre, l'épée. Et ce mot redoutable que l'on appelle guerre de religion, eh bien c'est ça. Un enfant de Dieu n'aime pas la guerre, il aime la paix, mais on lui fait la guerre. On fera la guerre jusqu'au bout. Car je suis maître la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est horrible, c'est terrible. On parlait tout à l'heure, dans notre temps de prière, de l'Église persécutée. Je crois qu'un chrétien né de nouveau, un chrétien converti, un chrétien de rempli du Saint-Esprit, n'aspire et ne soupire qu'à la paix et au bonheur des hommes, quels qu'ils soient. Mais on rencontrera toujours des gens, même sous le couvert d'une étiquette religieuse, qui diront « Mais nous voulons la guerre, pour avoir raison sur les autres. » Jésus nous parle de conflit, nous parle de division. Et c'est toujours un choix courageux quand un homme prend résolument position pour devenir chrétien. Parce qu'il sera nécessairement, à un moment ou à un autre, persécuté, diffamé, moqué, emprisonné, peut-être brûlé, comme ça s'est vu. Enchaîné. Mais il est libre. Ouais. C'est terrible hein, ce que peut le christianisme peut déclencher d'animosité, je dirais même d'inimitié spirituelle. Ça a toujours existé, mais dans les temps, dans les derniers temps, ce que nous sommes en train d'entrevoir dans le livre de l'Apocalypse, ça va être une généralisation. Ça va être la mondialisation. 2000 ans de guerre et de persécution. Persécution religieuse, pour preuve, afin que les hommes s'entretuent ou tout simplement s'égorgent les uns les autres. Je le rappelle, Dieu n'est pas le Dieu de la mort. Mais par l'Évangile, qui est une proposition de réconciliation, de paix, de pardon, les hommes n'en veulent pas. Donc, s'ils n'en veulent pas, la seule chose qui leur reste, eh bien, c'est de déclencher la guerre. Nous arrivons au troisième sceau. Le troisième sceau se présente, excusez-moi, sous l'emblème d'un cheval noir. D'un cheval noir. Ce n'est ni un arc, ni une épée, mais un instrument de mesure. Entendez par là une balance. On va le lire d'ici quelques instants. Et il apparaît à ce moment-là un fléau à caractère économique. C'est la guerre. C'est encore la guerre. La famine, on va le lire, est la conséquence de la guerre. Quand il y a des guerres, il y a souvent des famines qui l'accompagnent. Elle en fait ressortir l'horreur des combats, des luttes, et atteint une multitude d'innocents qui ne sont peut-être pas sur le front ou sur le champ de bataille, mais qui sont peut-être à l'arrière, mais ils vont mourir des conséquences de la guerre, pas par l'épée, mais par justement ce que cela peut engendrer. Pour ceux qui ont connu l'occupation dans les grandes villes de France, il n'y avait plus rien à manger. Là, plus de régime d'amaigrissement. Ah, il était naturel, hein. Non, mais c'est terrible, hein, quand on voit le... C'était terrible. Affreux, les camps de concentration, la guerre, une guerre économique. C'est pensé, c'est voulu, c'est bien entretenu, c'est priver les gens de leur force, parce que si vous ne donnez pas à manger aux gens, eh bien, ils ne vont pas avoir de force. Ils ne vont pas pouvoir se défendre. Ils ne vont pas pouvoir faire ceci et cela. Alors, on les met dans des conditions que... Mais cette famine, la guerre, la famine, fait sentir à l'homme son impuissance. Et quand on n'a rien dans le ventre, et puis, elle devrait au fils faire sentir à l'homme son... sa dépendance de Dieu. Puisque l'homme s'est toujours évertué à dire « Mais c'est de moi que vient la richesse, la nourriture, les biens et tout ça. » Ah oui. L'homme devrait crier, et l'homme crie quelquefois dans ces moments-là. C'est peut-être à ce moment-là, dans l'abondance, il ne pense pas à Dieu. Dans la disette ou dans la famine, alors peut-être que pour ceux qui ont cette sensibilité de Dieu, disent « Mais Seigneur, sauve-moi, délivre-moi, donne-moi à manger. Ne fais pas que je meure. » Mais vous savez que Dieu exauce, hein ? Dieu exauce. Je ne sais pas. On est dans des temps d'abondance et de surabondance, mais je ne me pose la question si on aura toujours autant de biens qu'on en a maintenant. Parce que on semble sans crainte, hein. On semble tellement des pays, on s'appuie sur finalement nos richesses, nos réserves et tout cela, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça sera toujours cela? Bénissons le Seigneur qui nous donne notre pain quotidien tous les jours. Ça, c'est important, ne l'oublions pas, parce que manger, c'est vivre. Quelle injustice! On va le voir dans la lecture du verset qui correspond à ce troisième saut. Le riche mange à sa faim et le pauvre s'efforce de survivre. Et quand on sait que dans les temps de la faim, F-I-N, les temps de la faim du monde, les croyants seront visés, écoutez bien, ça nous concerne, les enfants de Dieu seront visés en particulier par des lois iniques d'oppression et de sélection. On le verra d'ici quelque temps. Parce que celui qui refusera de porter le signe, la marque de la bête sur son front et sur sa main, eh bien, se verra laissé pour compte. Et il y aura des persécutions économiques. Alors, on n'ira peut-être pas que les chrétiens. Mais on en fera certainement partie parce que la Bible nous en parle. Alors, je lis ces fameux versets que j'ai commencé à l'inverse. Voilà, versets 5 et 6. « Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Voilà les conditions. Aujourd'hui, on parle de guerre tous azimuts d'une manière ou d'une autre, mais est-ce que nous ne sommes pas dans des temps de guerre économique? On en parle tous les jours. Il y a une chose qui revient continuellement, mais ça devient obsessionnel pour le monde, c'est l'argent. Voilà. Je ne sais pas, je ne suis pas dans cette dimension de connaissance, mais je pense que si les richesse était répartie, je crois qu'il y aura encore de quoi donner à tous, me semble-t-il. Il y a quelque chose de choquant quand vous voyez que des gens sont fabuleusement riches et qui s'enrichissent de plus en plus, et que les pauvres qui sont pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Et de voir cet étalage, de voir cette opulence. Je ne porte pas de jugement, mais celui qui a faim, il a vraiment faim. Quatrième saut. Un cheval pâle. Une tradition nous parle d'un cheval verdâtre. C'est assez répugnant. Ouais, verdâtre. Son cavalier porte un nom redoutable, la mort. Suivi du séjour des morts, c'est-à-dire le lieu où sont rassemblés les hommes désincarnés, l'âme est partie. Un pouvoir. pouvoir, son pouvoir s'étend sur un quart de l'humanité pour les faire mourir, soit par la guerre, soit par les pénuries économiques, soit par la mortalité accidentelle, ou la maladie, ou l'environnement animal. Entendez par là des virus, des maladies microbiennes, des pestes de toutes sortes. Lisons-le. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, on l'a vu, par la famine, par la mortalité, par les maladies, d'une manière ou d'une autre, ou par les bêtes sauvages de la terre. Alors, en tant que bête, enfin, la compréhension d'une bête sauvage, on pense à un lion, on pense à hein, des bêtes comme ça, voilà, dans les eaux ou sur la terre. Mais, vous savez, quand on regarde, enfin, si on a l'occasion de regarder le monde microscopique, il y a des fauves, hein. Il y a des bêtes sauvages, hein, c'est redoutable. Heureusement qu'elles n'ont pas la grosseur d'un bœuf, hein. Parce que je peux vous dire qu'on serait terrorisé tous les jours. Hein. Même chacun d'entre nous, là, enfin bon. Même avec la meilleure hygiène. C'est comme ça, voilà. Hein. Mais bon, il y a des bactéries qui nous font vivre, mais il y a des bactéries qui peuvent nous tuer. Hein. Et l'homme lutte contre ça. Eh oui. Alors à partir de ce verset 8, après le verset 8, on en finit avec les chevaux. Ouais. On va passer à autre chose maintenant. Mais je voudrais faire un récapitulatif de l'ouverture de ces quatre premiers sceaux, qui sont maintenant ouverts et on sait ce qu'il y a dedans. On comprend ce qu'il y a dedans, c'est pas forcément réjouissant. Sinon le premier, c'est que nous suivons, nous nous sommes mis dans le bon parti, nous suivons celui qui est parti pour vaincre et qui est vainqueur. Et c'est lui que nous suivons. Le récapitulatif, ce que je veux faire, correspond à deux textes bibliques que je vais lire avec vous, si vous voulez bien, dans Zacharie. Alors, prophète Zacharie, hein, il n'est peut-être pas facile à trouver, il se trouve dans les petits prophètes, vous allez retrouver ça rapidement, au chapitre 6, et il est quand même un texte que je veux lire, 8 versets. Mais ça va nous rappeler un peu ce que nous avons entendu. Écoutez bien, c'est prophétique. « Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici quatre chars sortaient d'entre deux montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Au quatrième char, des chevaux tachetés rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui me parlait, « Qu'est-ce, mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les quatre vents des cieux qui sortent du lieu où se tenait devant le Seigneur, où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion, c'est-à-dire le nord. Et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi, le sud. Les rouges sortent et demandent à aller, à parcourir la terre. L'ange leur dit, allez, parcourez la terre. Et ils parcoururent la terre. Il m'appela et il me dit, vois, ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion font reposer ma colère, mes jugements, sur le pays du septentrion. » Voilà, ça c'est la première lecture. La deuxième, on va la faire dans Matthieu. Et là, c'est Jésus qui, de sa bouche même, qui nous en parle. Chapitre 24, versets 6 à 8, et vous les connaissez, mais faut-il qu'on les rappelle ce soir. Nous sommes déjà dans la révélation, par la bouche même de Jésus en tant que prophète, des temps eschatologiques, c'est-à-dire de son retour. Écoutez bien. Chapitre 24, versets 6 à 8, c'est très simple. Jésus nous prévient, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. On peut l'être en tant qu'homme, mais entre chrétiens, ça nous pousse à lever les yeux vers le ciel. Et en disant cette prière définitive du livre de l'Apocalypse, viens Seigneur Jésus, reviens bientôt. Alors, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. C'est inéluctable, parce que c'est le principe, c'est le fonctionnement qui a été mis en route à partir du jour où, dans le jardin d'Éden, il y a eu cette séparation. Ça aurait pu être autrement, mes frères et sœurs, mais c'est comme ça. Le mystère de l'iniquité, c'est en route, ça fonctionne dans un sens contraire. Et c'est pourquoi Jésus revient, pour remettre les choses à l'endroit. Alors, vous n'êtes pas troublé, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela, j'espère que vous avez du courage, hein, que vous avez de la persévérance, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Seigneur, reviens bientôt. Hein. Reviens bientôt. Nous passons maintenant au cinquième sceau, et je lis à partir du verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ouais, il y a là une pause. Vous avez remarqué? On a vu des choses catastrophiques, mais là, on va parler des souffrants, des combattants pour la foi, des vainqueurs pour la foi, des martyrs. Ça, c'est le cinquième saut. Les persécutés de la foi au nom de Dieu. Ils se trouvent sous l'autel de Dieu en attente de la justice. La vérité, ils la connaissent. Peut-être pas dans sa plénitude, mais ils la connaissent. La vérité, ils la connaissent, ils attendent la justice maintenant. Et la justice, ça sera donné par un jugement. On rend la justice par des jugements. Donc, on en est là. Ce sont, écoutez bien, les âmes des enfants de Dieu, comme je l'ai dit, martyrisées pour deux raisons. La première, c'est avoir confessé ou prêché la parole de Dieu. Et la deuxième qui revient, c'est le témoignage de leur foi. Ceux qui parlent, ceux qui prêchent, ceux qui annoncent, ceux qui proclament. Voilà la raison de la persécution et de leur martyre. Mais pour ceux qui, on l'a dit, le témoignage de leur foi, il peut être verbal, il peut être silencieux, mais ils vont être mis à mort. Les âmes, ces âmes rachetées crient et soupirent après le jugement juste de Dieu sur un monde inique et mauvais, où le mal ne fait que s'apesantir de plus en plus. Est-ce que vous croyez que les choses vont aller mieux, frères et sœurs? Hey, quand on entend les commentaires, quand on entend les efforts humains désespérés, on se dit, mais on va y arriver un jour ou l'autre, on va finir par trouver des solutions, on va finir par établir. Quand on entend le monde tel qu'il est, ils n'ont pas perdu espoir à y arriver par eux-mêmes. C'est ça, justement. C'est ça. Mais il y a tous ceux qui sont là, dans la présence de Dieu, il y en a eu des milliers et des milliers hein, depuis de 20 siècles de christianisme. Hein. Ils attendent, hein, et qui sont en train de les rejoindre actuellement. Je suis sûr que dans certaines circonstances, dans certains pays, il y a des frères et des sœurs qui sont en train de mourir. Hein. Oh, ça, on n'en parle pas. Hein. Pour leur foi, pour une idée peut-être de la justice, pour une idée de la vérité, mais toujours liée naturellement à l'Évangile. En guise de consolation, et nous l'avons vu, ces âmes reçoivent une robe blanche, signe de la justification. Elles ne sont pas mortes pour rien. Elles n'ont pas été enlevées prématurément. Elles n'ont pas été fauchées dans leur existence, dans leur vie, comme cela. Et de se tenir en repos, il leur est dit de se tenir en repos, jusqu'à l'achèvement de la folie humaine, dont nous parlerons probablement la prochaine fois, la grande tribulation. Ce n'est pas un esprit de vengeance qui inspire ces persécutés, parce que ce n'est pas dans l'esprit du monde, ce n'est pas dans l'esprit des hommes, de l'homme avec son péché. Ce n'est pas un esprit de vengeance. C'est tout simplement la soif de la justice, c'est l'impatience de voir enfin, je précise bien, enfin le mal détruit, de voir apparaître un avenir meilleur. En d'autres termes, un monde nouveau de vérité, de sainteté, d'amour. s'instaurer dans la création de Dieu. Ouais, c'est ça. Nous ne soupirons pas certainement assez fort, nous. Ouais. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous amener à soupirer. Seigneur, nous le disons, nous l'exprimons à travers des beaux cantiques. C'est vrai. Vous savez pourquoi ? Parce que on est relativement tranquille. Il n'est pas de souhaiter que nous passions par des moments difficiles, c'est vrai. Mais qui sait si demain, souvenons-nous de ce que nous entendrons aujourd'hui, en tous les cas. Et combattissons avec ceux qui sont en train d'y passer. Mais qui sait ? Le Seigneur connaît tout. Si nous voulons donner une illustration évangélique de ce paragraphe qui concerne les persécutés, les martyrisés, eh bien on va ouvrir Luc au chapitre 18 et au verset 6 à 8, et il nous en est parlé. Verset chapitre 18, écoutez, c'est un soupir, et on le connaît bien ce texte, écoutez bien. Le Seigneur ajoutait, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus ? Qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, le Seigneur revient bientôt. Quoi qu'on en dise, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? Est-ce que dans les moments difficiles qui nous sont, qui viennent sur notre monde, d'une manière ou d'une autre, est-ce que nous allons garder la foi jusqu'au bout ? Jésus se pose la question, trouverai-je encore de la foi ? Trouverai-je encore cette persévérance ? Est-ce que nous regarderons encore vers les cieux ? Est-ce que nous regarderons encore là ? Et nous attendrons, eh bien, que Jésus apparaisse. Le sixième sceau se présente ainsi. Alors on reprend la lecture. Et là, vous voyez que ça va changer un petit peu de physionomie, si je peux m'exprimer ainsi, de configuration plutôt. Je lis. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. » Il s'agit de bouleversements autant cosmiques, naturels, géographique, préludant le jugement divin. J'ai repéré dans ce que nous avons lu les tremblements et convulsions de notre planète. Nous avons remarqué également l'obscurcissement, mais à une densité effroyable, de la lumière qui est la source de vie des hommes, c'est-à-dire le soleil. Un sac de crin, je n'ai pas trop l'idée de ce que ça peut être, mais ça doit être certainement quelque chose d'assez ténébreux, sac de crin. Tout dépend de la couleur du cheval. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire ce que ça veut dire, on a compris. Il est parlé de la lune à l'aspect du sang. C'est un sinistre présage. On parle de lune rousse quelquefois. Oui, mais là, c'est plus que roux, c'est rouge. Les étoiles. Comprenons, si nous voulons, d'une manière ou d'une autre, ces particules qui tombent sur la Terre, qui créent des cataclysmes, les météorites. Alors, il y en a eu. Il paraît que la Terre est criblée en permanence. Mais ce sont des, comme je l'ai dit, des particules. Et vous savez que les studios d'Hollywood font des films actuellement sur la fin du monde avec des choses effrayantes. Une galaxie, ou pas une galaxie, mais une météorite gigantesque va arriver, etc., etc. Alors les gens regardent ça en disant « Oh là là, c'est exaltant !» Quand vous la prenez sur la tête, il ne reste pas grand-chose. Il paraît que c'est comme ça que les dinosaures sont morts, les pauvres. Oui, mais là, ça ne va pas tomber sur la tête des dinosaures cette fois-ci. Alors, on peut donner toutes les explications qu'on veut, mais enfin, en tous les cas, le ciel se désintègre. Voilà. Les étoiles. Le ciel prend l'aspect d'un vide immense, sidéral, à tel point que ce vide fait qu'il disparaît. C'est vrai que le ciel, quand on le regarde, c'est vide, hein, à moins qu'il y ait des nuages. Mais il n'est pas si vide que ça, le ciel. Hein. La nuit, il n'est pas vide du tout. Hein. Mais là, c'est comme si c'était un vide. Il n'y a plus rien. Vous savez, si les étoiles ne brillaient pas, on serait vraiment dans l'angoisse. Hein. Parce qu'on ne se lève pas la nuit pour les voir, mais elles sont là. Et on est habitué à les voir. S'il n'y avait plus d'astres autour de nous, on serait certainement... Vous vous rendez compte? Un ciel comme un plafond noir, excusez-moi l'expression, ça serait terrifiant. On ne peut pas s'imaginer ce que ça peut être. Hein. On ne sait plus si on serait sur la Terre, si on a encore les pieds par terre, si nous sommes encore sur notre planète, ou si nous sommes dans un monde qui serait... Les hommes sont habitués à ça depuis les temps immémoriaux. Alors imaginez-vous. Les montagnes, les îles, les continents s'ébranlent et vont à la dérive. Toutes les catégories sociales des hommes, des plus hauts dignitaires jusqu'aux plus humbles, sont saisis d'une angoisse mortelle et ils cherchent à fuir. Mais fuir quoi? Ah, je repose la question. Fuir qui? Fuir où? Et fuir comment? Parce que toutes les questions sont posées là. Voilà. Et de ces hommes saisis d'une effroyable angoisse monte une prière d'une nature effrayante. Ils désirent mourir. Ils désirent mourir pour deux raisons. La première, c'est que l'homme qui est si fier, si grand, si orgueilleux, si savant, qui comprend tout, qui sait tout, qui peut tout, ne maîtrise plus rien. Parce que, rendons hommage à notre Dieu qui a donné à l'homme l'intelligence pour faire des choses formidables et merveilleuses. Ça reste encore au niveau de ses mains, de sa tête, de sa compréhension, de ses possibilités, de son savoir, de sa science. Mais quand il s'agit de l'univers, là, l'homme est complètement dépassé. Il ne peut plus rien. D'ailleurs, on le voit bien. Hein. Il suffit qu'il tombe sur un espace de, je ne sais pas moi, 200 km sur 200 km, un petit peu de neige. Et un pays est arrêté. Il suffit qu'un volcan souffle un peu dans une île quelque part par là, il n'y a plus un avion qui vole. Il suffit qu'il y ait des inondations d'une manière ou d'une autre, on ne peut plus rien faire. Il suffit qu'il y ait... Oh, je ne veux pas vous faire peur. Hein. Vous connaissez hein, l'électricité. Hein. Tout marche à l'électricité. Il suffit que... Et il n'y a plus rien du tout. Parce qu'on est dépendant de tout cela. Et... Seigneur. Non, mais on y a bien pensé à tout cela. Mais l'homme dit, moi, je suis capable de tout. Je suis capable de faire face aux éléments. Je suis capable de maîtriser ceci et cela. Mais qu'est-ce qu'on maîtrise? Et vous savez, dans le psaume 2, il est dit que Dieu se rit des hommes, des nations, des princes et des rois. Il a de quoi rire. Hein. Ce petit bonhomme qui n'est que poussière. Oui, petit ou grand, peu importe, hein, parce que je ne veux pas... qui n'est que poussière, qu'est-ce qu'il peut devant la nature? Qu'est-ce qu'il peut devant le firmament? Qu'est-ce qu'il peut devant tout ça? Mais on ne peut rien du tout. Alors, ils vont crier, l'homme ne maîtrise rien. Et là, à ce moment-là, il est terrifié en prenant conscience subitement du jugement de Dieu. Et là, l'homme a dit pendant des siècles et des siècles, Dieu n'existe pas. Là, ils vont voir. Ils vont dire, mais Dieu existe, il y a bien quelque chose. Remarquons ceci. Il est intéressant de noter que ce déferlement des jugements de Dieu, appelé sous un autre terme la colère divine, sur la race des hommes pécheurs, arrive sous le sixième sceau. Sixième sceau. On va arriver à un moment donné, dans le chapitre 13, où il y aura un chiffre qui apparaîtra, 666. Sixième sceau, nombre de l'homme, qui frappe... Six éléments de la création, vous l'avez vu avec moi, on l'a lu, hein. Le soleil, la terre, la lune, les étoiles, également le ciel, les montagnes, les îles, six éléments, enfin je les ai donnés un petit peu éparpillés comme ça, mais six éléments sont frappés de la création. et 6 catégories d'hommes. Alors on va les retrouver, parce que l'homme est quand même un petit peu le roi de tout ça. Il est parlé des rois, il est parlé des grands, des chefs militaires, des riches, des puissants, les esclaves et les hommes libres. 6. On y arrive. On y va. Ces bouleversements, c'est une question, suffiront-ils à ouvrir les yeux des orgueilleux et leur faire sentir leur néant, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier l'humanité en révolte contre Dieu. Le néant. Eh bien, la Bible nous répond non. Ils n'ouvriront pas les yeux, ils n'ouvriront pas leur cœur, ils ne se prosterneront pas devant Dieu, ils feront le contraire. Parce que, au lieu de se repentir, ils préfèrent être anéantis plutôt que de s'humilier, et ils invoquent à la place du Dieu miséricordieux, du Dieu de grâce, ils invoquent, on retombe vraiment à l'état primitif, les montagnes et les rochers en disant « tombez sur nous ». L'homme n'est jamais sorti de son animalité, de sa bestialité, lui qui se dit intelligent. Il retourne à la pierre. C'est vrai qu'il est poussière. Mais Dieu était venu lui dire « tu n'es pas seulement que poussière, tu es une âme vivante et je mettrai en toi un esprit ». Mais l'homme retourne à la poussière. Et c'est son Dieu, c'est la pierre, ses idoles, ses montagnes, ses temples, ses basiliques, ses églises, tout ce qu'il voudra. On retourne à cela. Tombez sur nous, tout simplement. Le sixième sceau, signe de l'homme, est l'effondrement de tout ce sur quoi l'homme croyait compter. Et tout s'évanouit sous ses pas. Dans ses mains, tout fond, comme on pourrait dire neige au soleil. Il n'aura plus désormais d'appui. Il n'y aura plus rien. Il a fait le choix. Les lumières naturelles vont disparaître. Elles vont se changer en ténèbres. Les assises du monde s'écroulent. Et c'est le nivellement des inégalités. Le roi comme le pauvre, l'esclave, sera logé à la même enseigne. Il est un homme. Oui, il est un homme. Et c'est vrai. Quelle différence il y a entre un pauvre et un riche? C'est un homme quand même. Il a une tête. Ils ont une tête tous les deux. Ils ont des mains. Ah, ils en ont peut-être. L'un en a peut-être davantage dans les poches que l'autre, hein, ça c'est sûr. Il y en a un qui peut-être est bien nourri, l'autre il a le ventre creux. Mais ce sont des hommes quand même. Et ça c'est la loi de l'égalité de Dieu. Vous savez, l'égalité de Dieu, elle porte un nom, c'est la mort. Tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Si nous voulons nous rappeler la parabole du pauvre Lazare dans l'évangile de Luc, eh bien nous avons aussi la pensée de tout cela. Ça sera l'abolition de tous les privilèges. Les gens qui diront « mais moi je veux garder ceci, je veux garder cela, on ne me l'enlèvera pas, je fais la guerre pour garder ceci et cela ». Tout ça, ça disparaîtra. Ça sera la suppression de tous les titres. C'est la fin de tout ce que l'homme a construit, de tout, écoutez bien, de tout ce que l'homme a construit depuis la tour de Babel, a construit sans Dieu. Puisque à la tour de Babel, l'homme a dit à Dieu « on te licencie, on te congédie ». On n'a pas besoin de toi. On est assez grand garçon pour faire le monde tout seul. Hey, Apocalypse et Genèse, hein, vous savez, ça se retrouve. Hein. Je tirerai une dernière référence de l'Ancien Testament dans Ésaïe chapitre 13. Ésaïe chapitre 13 et au verset 6. Écoutez, on arrive à un point de l'Apocalypse où on peut commencer à dire, ce ne sont que les sceaux, attendez, hein. Après il va y avoir les trompettes, et après il va y avoir les coupes, c'est rien ça, c'est rien du tout avec ce qui va arriver après. Il est dit, mais gémissez, car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent, et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail, ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés, voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Merci Seigneur. il y a eu tant de larmes, tant de pleurs, tant de jeunes gens, d'enfants qui ont pleuré sur cette terre, tant de soldats qui ont été massacrés sur les champs de bataille, tant de choses abominables. Merci Seigneur, je ferai cesser l'orgueil des tyrans. J'avais encore le chapitre 7, on le verra la prochaine fois, mais je voudrais quand même terminer par ceci. On a vu l'ouverture des 6 premiers sceaux. Je terminerai avec dans Luc 21, 27. Écoutez, c'est Jésus là encore. Et je vais laisser Jésus terminer, parler. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Alors on ne va pas pleurer, mes frères et sœurs, on va se réjouir. Et l'Apocalypse est une bonne nouvelle pour nous. C'est la plus belle de toutes les nouvelles que nous pouvons entendre. Et elle s'inscrit dans le grand message royal de l'Évangile, divin de l'Évangile. Redressez vos têtes. Et il leur dit une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant que déjà l'été approche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront. Mais ce que j'ai dit, ce que j'ai déclaré, ce que j'ai arrêté, eh bien, ne manquera pas de s'accomplir. Mes paroles ne passeront point. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne sa grâce. J'espère que vous allez dormir tranquille ce soir. Oui. Non, mais attendez, il y a la suite. Il y a la suite. Alors que Dieu nous aide. En tous les cas, pour nous, on va faire cette prière au Seigneur, si vous voulez bien vous associer avec moi. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Et comme nous le chantons dans ce cantique, arme nos cœurs et arme nos bras, Seigneur. Oui, s'il y a des armes, eh bien c'est les armes du Saint-Esprit. C'est celle de la foi, de l'espérance, de l'amour, de la vérité, en soupirant après ces temps où la justice brillera comme le soleil à son plein midi. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu reviennes bientôt, Jésus. Il y a tant de souffrances sur cette terre. Il y a tant d'hommes qui crient vers toi sans te connaître. Tant d'hommes qui te crient peut-être maladroitement, mais qui crient, Seigneur, parce qu'ils espèrent que les choses du temps présent, eh bien, ne demeureront pas à toujours. Seigneur, visite-nous les uns et les autres. Merci parce que ton Église, Seigneur, attend ton retour. Seigneur, aide-nous à regarder vraiment en haut. C'est plus le moment de regarder vers la terre. C'est vrai que tu nous donnes cette vie. C'est vrai que nous sommes encore dans ce monde, mais donne-nous de regarder. Ô Seigneur, réveille ton peuple pour regarder vers le haut, vers le ciel, où Jésus revient bientôt. Merci, mon Dieu. Bénis ton peuple. Bénis l'épouse. Bénis chacun d'entre nous. Remplis nos cœurs d'espérance et de foi. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen.